cette belle solennité du cœur de Jésus, qui est tellement centrale pour nous. C'est une grâce de pouvoir la célébrer ici à Paray-le-Monial, à nouveau, le dimanche avec nos communautés rassemblées. La première lecture tirée du livre d'Osée nous plonge d'emblée déjà dans un des passages les plus bouleversants, le plus intense, qui exprime la miséricorde du cœur de Dieu. Je mets cœur là encore entre guillemets. Car évidemment, cela précède l'événement de l'incarnation. C'est le cœur même, l'amour, la passion du Dieu d'Israël pour son peuple. Alors vous avez entendu ces paroles de tendresse qui expriment à la fois amour paternel et maternel. J'ai aimé Israël, je lui apprenais à marcher, je le soutenais de mes bras, je le guidais avec des liens d'amour, comme un nourrisson je le traitais, je le soulevais, je le faisais manger, et puis le constat douloureux, ils ont refusé de revenir à moi. Et il y a un autre passage qui n'est pas pris qui est dans le livre d'Osée, dans ce chapitre, mais qui n'a pas été gardé ici dans la version liturgique. La constatation douloureuse, mon peuple est cramponné à son infidélité. Et c'est là que Dieu va poser la question. Que vais-je faire? Vais-je les livrer au châtiment? Comment vais-je les traiter? Et alors, ce passage qui a tellement interpellé le pape Benoît XVI, et bien avant, dans ses réflexions, ses contemplations du cœur de Jésus, ce passage du livre d'Osée, « Non, c'est Dieu qui parle, mon cœur se retourne contre moi. Toutes mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. » Ce passage qui constitue peut-être un des sommets de l'Ancien Testament par rapport à la thématique de la miséricorde nous dit quelque chose d'essentiel. C'est comme s'il y avait, je dis bien au conditionnel, parce qu'on balbutie devant un tel mystère, c'est comme s'il y avait un combat à l'intérieur même de Dieu entre sa justice stricte face aux péchés d'Israël et à nos péchés et sa miséricorde. Mon cœur se retourne contre moi. La traduction là est excellente. Peut-être qu'elle nous fait déjà entrevoir quelque chose du mystère de la lance du soldat qui se tourne vers Jésus pour ouvrir son cœur. Et par rapport à l'immensité du péché qui se manifeste, du péché de l'humanité qui se cristallise en fait sur l'événement du Golgotha, Jésus en croix, voilà que la lance du soldat va ouvrir les trésors inépuisables de la miséricorde de sorte que ce qu'on pourrait appeler la colère, entre guillemets, ou la justice de Dieu, sera comme engloutie par sa miséricorde. Là encore, on balbutie. En théologie stricte, il faudrait simplement dire qu'en fait, la justice de Dieu s'identifie avec son inépuisable miséricorde. Ou inversement, l'inépuisable miséricorde de Dieu, eh bien, c'est sa justice, c'est sa manière de faire justice. Car la justice des hommes s'arrête au fait brut. La justice de Dieu va jusqu'à la racine profonde. Et il voit bien notre misère, il voit la racine du mal. Et il la guérit profondément de l'intérieur. Et c'est cette spiritualité du prophète Osée qui va être, sans qu'il fasse référence à ceci, au cœur de la spiritualité d'un saint Claude la Colombière, dont nous célébrons la mémoire un petit peu tout au long de cette année à cause de l'anniversaire de sa canonisation. Il a compris comme personne, à la lumière du message de Paray-le-Monial, le primat de la miséricorde comme étant le plus grand des attributs de Dieu. Bien plus grand que ce qu'on pourrait appeler la puissance de Dieu qu'il manifeste dans le, passage de la mer Rouge ou autre, ou en donnant la manne du ciel. Lui qui dira, Claude, à une religieuse qui avait des attitudes très culpabilisantes, janséniste, qui dira qu'on offense et on blesse le cœur de Jésus beaucoup plus par notre manque de confiance en son inépuisable miséricorde que par nos péchés. Et qui dira dans son admirable prière pour implorer la divine miséricorde, « Je vous ai gravement offensé, ô mon Dieu, je vous ai gravement offensé. Mais ce serait encore bien pis si je vous faisais l'horrible outrage de penser que votre bonté n'est pas assez grande pour me pardonner. Quand bien même mes crimes seraient 100 fois plus nombreux, 100 fois plus noirs, jamais je ne douterai, je ne cesserai d'espérer en votre miséricorde. » Et c'est donc ce que nous annonce le prophète Osée. Peut-être avec une nuance, vous l'avez peut-être relevé, peut-être pas. Dieu dit encore dans le prophète Osée, « Car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viendrai pas pour exterminer. » Alors qu'avec le mystère de l'incarnation, le mystère est consommé. Dieu pourrait dire « Je suis Dieu et je suis homme. » Voilà ce qui nous réunit ici. Ce que le Concile Vatican II, de façon extrêmement lapidaire et très sobre, a voulu dire en quelques mots. Le Verbe éternel de Dieu a voulu nous aimer avec un cœur d'homme. Avec un cœur d'homme. C'est-à-dire tout l'amour infini de soi inaccessible de la Sainte Trinité qui s'exprime pleinement, pas seulement en partie, qui s'exprime pleinement à travers ce cœur d'homme qui justement s'est laissé transpercer pour laisser déborder cet infini de l'amour. Saint Paul, lui, il nous parle dans son épître aux Éphésiens de l'immensité de ce mystère, de ce projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus et que d'une certaine façon, les puissances d'en haut découvrent grâce au mystère même de l'Église, c'est-à-dire de l'incarnation, de l'acte salvifique du Christ et du prolongement de l'incarnation du Christ qui est l'Église, son corps mystique. Il le dit. Les puissances célestes elles-mêmes connaissent grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Ensuite, Paul tombe à genoux devant le Père et il nous invite à entrer dans l'immensité de ce mystère, capable de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. C'est vraiment ce mystère que nous contemplons ici, à Paris le Monial. Le grand théologien bénédictin Dom Marmion, donc qui a été pendant plusieurs années le père abbé de l'abbaye de Maretsou en Belgique, grand théologien qui a été béatifié par Jean-Paul II, le même jour de la béatification que Jean XXIII, et il est mort en 1923. Donc Dom Marmion écrit dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Le Christ dans ses mystères ». Il est une fête qui, par son objet, nous rappelle d'une façon générale l'amour que le Verbe incarné nous a montré. C'est la fête du Sacré-Cœur. L'Église, à la suite des révélations de Jésus à Sainte Marguerite Marie, clôt, pour ainsi dire, par cette fête, le cycle annuel des solennités du Sauveur. Comme si, arrivé au terme de la contemplation des mystères de son époux, il ne restait plus à l'Église qu'à célébrer l'amour même qui les a tous inspirés, ces mystères. L'objet propre et direct de cette dévotion est le cœur physique du Christ. Ce cœur, en effet, est digne d'adoration parce qu'il fait partie de la nature humaine et que le Verbe s'est uni à une nature parfaite. L'incarnation, donc vrai Dieu et vrai homme. La dévotion au cœur sacré de Jésus, nous dit Don Marmion, se ramène donc au culte de son cœur de chair, ce cœur qui battait pour nous dans sa poitrine d'homme-Dieu. Alors il poursuit, il y a des âmes qui se sentent poussées à honorer spécialement les mystères de l'enfance de Jésus. D'autres sont attirés par les charmes tout intérieurs de sa vie cachée. D'autres encore ne peuvent se détacher de la méditation de la passion. Cependant, la dévotion au cœur sacré de Jésus est de celles qui doivent nous être le plus chères. Et pourquoi ? Parce qu'elle honore le Christ Jésus, non plus dans un de ses états ou de ses mystères particuliers, mais dans la généralité et dans la totalité de son amour. De cet amour où tous les mystères trouvent leur explication la plus profonde. Cette dévotion revêt quelque chose d'universel. En honorant le cœur du Christ, ce n'est plus à Jésus enfant, adolescent, victime sur la croix ou présent dans l'Eucharistie que s'arrêtent nos hommages, mais à la personne de Jésus dans la plénitude de son amour. Ce que nous dit là Don Marmion nous fait peut-être pénétrer un peu plus dans la richesse de cet évangile que nous venons d'entendre. En effet, dans le transpercement du cœur, il y a comme un résumé, une synthèse de tout l'acte salvifique du Christ. Ce n'est pas seulement un geste qui clôture la passion. C'est beaucoup plus que ça. Notre cher ami, désormais auprès du Seigneur, le père Glotin, jésuite, qui est mort maintenant il y a bientôt 2 ans, disait que dans cet événement, il y a comme un instantané de tout le mystère salvifique du Christ. Le mystère de l'incarnation y est présent, car le transpercement du cœur nous révèle qu'il s'agissait bien d'un cœur d'homme, un cœur de chair qui a été déchiré. C'est donc le mystère de l'incarnation, et le transpercement du cœur peut être considéré comme l'expression la plus bouleversante justement de l'incarnation. Comme je le disais tout à l'heure, avec le Concile Vatican II, cela nous montre qu'il a voulu nous aimer avec un cœur d'homme, que Dieu, le Verbe, le Fils éternel, a voulu nous aimer avec un cœur d'homme jusqu'au déchirement du cœur. Dans le transpercement du cœur, il y a aussi un résumé de toute la passion, avec le sang qui jaillit du côté, comme si c'était un petit peu les dernières gouttes de sang, nous montrant qu'il est allé vraiment, mais jusqu'au bout. Il s'est vidé lui-même, comme le dit l'Épître aux Éphésiens. Il s'est dépouillé, il n'a pas gardé pour lui le privilège qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Et les dernières gouttes de sang nous disent qu'il s'est anéanti, il a donné, il a livré son humanité absolument goutte à goutte jusqu'au bout. Donc, conclusion de la passion. Mais il y a l'eau qui jaillit. Et l'eau nous ouvre sur toute l'espérance, sur tout le côté glorieux, cette fois-ci, de l'acte salvifique du Christ. L'eau, symbole de la vie, symbole de l'Esprit-Saint, symbole des sacrements, surtout du baptême. L'eau qui nous annonce que la vie sera plus forte et va engloutir la mort, que les jours de la Passion, comme nous le chantons dans la liturgie, ils sont finis, les jours de la Passion. Désormais, c'est la résurrection qui emporte tout. Cette eau qui descend sur ce jardin, jardin du Golgotha, pour donner la vie nouvelle. C'est l'eau de l'Esprit-Saint qui n'annonce pas seulement la résurrection, mais qui annonce la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit-Saint. Cette eau dont saint Jean parlait déjà, lorsqu'il disait « de son sein ou de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive ». Il parlait de l'Esprit-Saint, nous dit saint Jean explicitement, que devaient recevoir tous ceux qui avaient cru en lui. Et cette eau qui jaillit du cœur de Jésus a une dimension eschatologique. Elle nous amène aussi vers les fins dernières. Ça aussi, c'est le mystère du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus nous ouvre sur notre destinée éternelle. Cette eau qui coule dans le jardin du Golgotha va devenir ce fleuve d'eau vive que Jean, le voyant de l'Apocalypse, va voir. L'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Cette ouverture vers l'éternité, l'idée m'est venue de vous en parler parce que ça m'a beaucoup frappé hier dans son enseignement. Daniel Ange nous disait qu'il y a comme une sorte de transfiguration, de transposition entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire, du point de vue du passé, nous subissons l'histoire. Et alors donc, tous ces saints que nous honorons, Marguerite Marie, Saint Claude, Saint François d'Assise, etc., ou même les saints les plus proches de nous, Mère Teresa, Jean-Paul II, font désormais partie chronologiquement de notre passé. Mais en vertu de la résurrection du Christ et de sa seigneurie et de l'effusion de l'Esprit Saint qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la participation plénière à la vie de la Trinité, ce passé devient notre avenir. Il le disait hier, ces saints nous attendent, ils nous préparent notre venue, notre accueil au ciel. Et c'est là que je voudrais en venir et peut-être conclure. Le cœur de Jésus que nous vénérons ici à Paray-le-Monial et dans toute l'Église, c'est en même temps le lieu où nous pouvons par avance contempler notre future béatitude. Et là, deux théologiens géniaux nous mettent sur la route. Romano Guardini, bien qu'il ait un nom italien, c'était un théologien allemand, mort en 1968, nous dit ceci. Le cœur de Jésus sera l'espace qui renfermera toute chose. Tout sera transparence et lumière. Et surtout cette parole magnifique. L'amour comme état permanent de la création. Donc ce ciel nouveau, cette terre nouvelle dont nous parle l'Apocalypse, leur substance sera uniquement l'amour. L'amour comme état permanent de la création. L'identité de l'intérieur et de l'extérieur, voilà ce que sera le ciel. Il n'y aura plus de dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, plus de combat entre la chair et l'esprit, plus de... voilà, une unification absolue, l'identité de l'intérieur et de l'extérieur, et alors nous serons vraiment connus comme nous sommes connus, et nous connaîtrons chacun dans tout ce qu'il est essentiellement, dans sa vie la plus intime, la plus intérieure. Problème ? Ça va mieux ? Bon. Dans sa vie la plus intime, la plus intérieure, qui sera à ce moment-là manifestée et qui sera vie de gloire, épiphanie éternelle. L'autre théologien de génie, mais il n'était pas seulement théologien, pasteur, un des plus grands saints de toute l'histoire et dont le privilège a été que nous l'avons connu, c'est Jean-Paul II. Et donc, dans ses méditations sur les différentes invocations des litanies du cœur de Jésus, donc les invocations qui constituent les litanies du cœur de Jésus, il commente « Cœur de Jésus, délice de tous les saints ». Alors voilà ce qu'il écrit. « Le cœur du Christ est l'espace vital des bienheureux. » Le lieu où il demeure dans l'amour, dont il tire une joie éternelle et sans limite. La soif infinie d'amour, soif mystérieuse que Dieu a placée dans le cœur humain, est comblée dans le cœur divin du Christ. Alors, frères et sœurs, forts de toutes ces paroles, fort de ce que nous dit aussi Don Marmion pour nous inviter à la dévotion au cœur de Jésus, non pas comme une dévotion parmi d'autres, et pire encore une dévotionnette sentimentale qui aurait fait son temps, je ne sais pas quoi, il nous plonge dans l'essentialité de ce qu'est cette dévotion, c'est-à-dire en fait c'est le cœur de notre foi, c'est le lieu même de tous les mystères, de tout ce qui manifeste l'amour de Dieu depuis la création, ou l'amour de Dieu même depuis toute éternité et pour toute l'éternité. Saint Paul qui nous dit que le mystère de cet amour peut être considéré comme largeur, hauteur, profondeur, etc., insondable, et qui nous est maintenant pleinement manifesté, nous le découvrons en celui que nous contemplons. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et enfin, avec Guardini et Jean-Paul II, nous contemplons à l'avance le lieu de notre béatitude et nous en vivons déjà dès maintenant pour pouvoir le propager, pour pouvoir le communiquer dans la mission, dans l'évangélisation et pour pouvoir ouvrir cette humanité si souvent recroquevillée dans la désespérance sur elle-même. Et là, nos trois extraordinaires intervenants de ces trois jours nous ont, avec un éclairage chacun différent, merveilleusement ouvert sur une sorte de diagnostic de notre humanité d'aujourd'hui, mais pas fataliste, pas pessimiste, mais comme un champ extraordinaire d'ouverture, d'espérance, pour nous diriger tous ensemble, nous, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas encore, y compris ceux qui sont actuellement nos adversaires, vers cette extraordinaire perspective de la vie glorieuse dans la Jérusalem céleste, qui est identiquement le cœur grand ouvert, l'espace grand ouvert du cœur de Jésus. Amen.